Est-ce que vous aussi, vous admirez les défigurés, les sales gueules, les blessés, les estropiés du visage, les borgnes et les sans-mâchoires? Ceux qui reviennent de loin mais qui sont quand même revenus, ceux qui défient les lois esthétiques et dont le nouveau visage transcende et démolit les règles frileuses du normal et du beau. Avec les défigurés, si l'on en croit Victor Hugo, on touche parfois le sublime, ce qui est beaucoup plus intéressant que le beau, car comme il le rappelle lui-même, on a besoin de se reposer de tout, même du beau.
La nuit a pris la peine de tuer cette femme. Mais ça n'est pas drôle. Qu'as-tu à rire, garçon ?
Je ne ris pas.
Alors tu es terrible. Je n'avais pas encore vu ton visage dans la cahute mal éclairée. Le grand jour me le montre. Ne ris donc plus.
Mais je ne ris pas.
Tu ris, te dis-je. Qu'est-ce qui t'a fait cela ?
Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
Depuis quand as-tu ce rire ?
J'ai toujours été ainsi.
Je croyais que ce travail-là ne se faisait plus. Regardons dans un livre. Voyons, conquête. Dedanazati, c'est ici. Bouche fendue jusqu'aux oreilles. Gencives dénudées et le nez meurtri. Tu seras masqué et tu riras toujours.
Something funny, asshole?
Alors, mon vieux, dis-nous ce qu'il y a de si drôle. Qu'est-ce qui te fait rire?
J'ai un problème, c'est médical.
Moi, je vais te dire ce que t'as, trou du cul. Oh, vas-y, c'est la mienne.
S'il vous plaît, arrêtez.
Bonjour Jean-Marc Ovas.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Vous êtes professeur de littérature française à Sorbonne Université et vous êtes en grève aujourd'hui.
Eh oui, c'est la journée science morte, université morte, pour protester contre la réforme de l'enseignement supérieur qui se profile, qui a été commencée il y a un certain temps, une dizaine d'années, sous Valérie Pécresse et qui va s'achever sans doute bientôt et qui est la destruction complète de tout ce que l'on a connu. Et je pense qu'il est important de le signaler et de s'en plaindre. C'est pour ça que je suis quand même venu, mais un peu comme Hugo dans la préface des Contemplations dit ce livre devrait être lu comme on lirait le livre d'un mort, cette émission doit être écoutée comme on lirait l'émission, comme on écouterait l'émission d'un mort, la science morte, voilà. Mais bon, c'est une parenthèse.
Bah merci d'être là ce matin. Malgré tout, est-ce qu'on peut dire que le Joker, c'est l'homme qui rit du 21e siècle?
Du 20e siècle et du 21e siècle, oui, absolument. C'est assez amusant parce que L'homme qui rit, c'est vraiment le roman peut-être le plus fascinant de Victor Hugo. C'est pas le roman le plus célèbre. C'est le roman que préfèrent souvent les gens qui aiment beaucoup Victor Hugo. Et il a eu beaucoup moins célèbre donc que Notre-Dame de Paris ou que Les Misérables, mais qui a une postérité, et notamment au cinéma, avec cette figure du Joker qui vient directement de
il y a un lien direct entre les deux
de celle de Gwynplaine, oui, on en parlera, mais la déformation physique du visage avec ce rire qui devient le trait caractéristique du personnage et qui dont le visage présente le rire et qui doit faire un effort pour ne pas rire, en fait. C'est ça le personnage de Gwynplaine, et on verra comment il est fabriqué.
Et en effet, on entendra un texte qui précisera la défiguration dont souffre Gwynplaine. Vous êtes le biographe, Jean-Marc Ovas, de Victor Hugo. Vous avez publié deux énormes tomes de sa biographie. Un troisième est encore à venir. Je crois que vous êtes en train de travailler sur le sujet. Le sujet est lui-même massif. Quel lien peut-on faire entre la biographie de Victor Hugo et sa fascination, est-ce que le terme est exact, pour les monstres, en fait, pour la monstruosité, pour la déformation physique?
C'est une question difficile, parce que ça ferait un lien biographique. Ça paraîtrait un peu simple de rabattre cette fascination réelle de Victor Hugo pour les personnages monstrueux à la biographie, mais il se trouve que sa première biographie a été écrite par son épouse Adèle, qui est une sorte de biographie autorisée, donc il l'a intégrée dans ses œuvres complètes. Ça s'appelle Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, Et Adèle l'écrit, elle le dit, hein, sous la dictée, pas sous la dictée de son mari, mais son mari lui raconte sa vie et elle l'écrit au fur et à mesure. Mmh. Et alors, dans cette biographie, on a un épisode de l'enfance, quand, vous savez qu'enfant, Victor Hugo est parti un an en Espagne sur les traces de son père, qui était nommé à la suite de Joseph Bonaparte sous la période napoléonienne. À Madrid, et à Madrid, son père le met l'enferme dans un pensionnat. Il passe une petite année à Madrid. Et là, il raconte qu'ils étaient réveillés le matin dans ce pensionnat gigantesque, sans chauffage, parce que c'était la guerre. Et ils étaient réveillés tous les matins par un monstre qui ça c'est Adèle qui fait le lien, qui lui aurait inspiré ensuite Quasimodo, la figure de Quasimodo. Donc ce serait il y a deux choses qui m'intéressent dans cet épisode, qui paraît un peu réducteur peut-être, mais il y a deux choses intéressantes, c'est que ça se passe en Espagne, à nouveau, comme tout ce qui compte vraiment pour Victor Hugo a été vraiment totalement inspiré et changé par cette année en Espagne. Alors, on dirait qu'une année, c'est pas très long, mais à l'époque, c'était beaucoup, une année à l'étranger, c'était pas la norme. Et en plus de ça, il avait 9 ans, et donc il s'est retrouvé en pension, c'était quand même très compliqué. Mmh. Et toute son esthétique a été marquée par l'Espagne. C'est devenu, c'est Sainte-Beuve qui le raconte après, et c'est devenu quasiment un auteur espagnol pour beaucoup de choses. Et on pense au théâtre, à Hernani ou à Ruy Blas. Bref, il a été très marqué par l'esthétique et par la langue espagnole.
Qui n'est pas forcément monstrueuse.
Pas du tout, mais il y a ce baroque, ce mélange baroque de la monstruosité mise en scène. Je pense que ça a quelque chose à voir avec l'esthétique espagnole quand même, l'esthétique mm-hmm. du siècle baroque, en fait, dont il va reparler souvent. Ces grands modèles esthétiques, c'est Shakespeare, bien sûr, mais c'est aussi Lope de Vega. Enfin, c'est le théâtre du siècle d'or espagnol. C'est vraiment du baroque poussé à l'extrême, en fait. On va voir ça comme ça. Et peut-être qu'il nous le signale en insistant sur cet épisode, ce personnage bossu qui les réveillait le matin quand ils étaient en pension.
Il y a une évolution de la représentation de la laideur par Victor Hugo dans ses textes, une évolution assumée. Hugo écrivait des romans, il écrivait aussi des textes plus théoriques dans lesquels il expliquait peut-être ce qui guidait son écriture. Donc c'est un trésor pour nous aujourd'hui et surtout pour cette émission, puisqu'on peut passer de l'un à l'autre, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. La représentation de la laideur passe d'abord d'un constat d'une laideur insupportable et monstrueuse qui est du côté du mal, vers une forme de transfiguration où la laideur deviendrait le lieu du sublime. C'est une bonne manière de décrire en quelques mots l'évolution même du travail d'Hugo, non ?
Oui, c'est intéressant du coup de penser cette question dans un ordre chronologique, puisque c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on commence avec un monstre qui paraît tout droit sorti de la mode gothique de l'époque, des romans anglais cette fois, et des monstres qui étaient à la mode dans les romans au début du 19e siècle. Et puis, assez rapidement, finalement, on arrive à ce Quasimodo qui est un monstre vraiment de laideur, mais qui a une belle âme. Et ça, c'est une première variation et qui se passe en une dizaine d'années dans l'œuvre de Victor Hugo, dans les 10 premières années de création littéraire. Et c'est assez fascinant à constater, puisqu'après, ce sera une constante. Et finalement, l'homme qui rit, qui paraît l'aboutissement de tout ça, il est déjà présent dans les premières œuvres.
On va écouter un premier extrait. C'est son premier roman, Handislande.
Oui,
H-A-N, du nom du monstre qu'on trouve dans ce texte. Alors il y a une influence, là on est, vous disiez, c'est gothique, on est en Norvège, enfin un univers qu'on n'associe pas forcément d'emblée à Victor Hugo.
Absolument, donc c'est très bien, parce que à chaque fois je rappelle à mes élèves que Handislande ne se passe pas en Islande, qu'ils ont beaucoup de mal à croire, donc c'est effectivement, ça, c'est un roman qui se passe en Norvège. C'est son premier roman publié.
Ouais.
C'est pas 1823. Pas tout à fait le premier écrit, parce qu'il avait écrit une longue nouvelle qui était Bougjargal, mais qu'il publiera après, plus tard, en 26. Donc il commence ce roman, il a 19 ans, ça c'est important. Donc c'est vraiment, Bougjargal étant une nouvelle, on peut considérer que c'est son premier roman. C'est un roman très intéressant, un peu oublié. C'est très, c'est étonnant de voir qu'il n'a pas du tout eu le succès des grands romans de l'exil ou même de Notre-Dame de Paris, alors qu'il est quand même très séduisant, mais pas si facile que ça à trouver, même dans les mêmes comme édition aujourd'hui. Il faut le trouver dans les œuvres complètes chez Bouquin Lafond. On ne le trouve pas en poche, par exemple. C'est assez amusant.
Voici un extrait lu par la comédienne Hélène Le Seur. Vous nous direz ensuite de quoi il retourne.
« tête effroyable se leva de l'autre côté de l'autel druidique, avec des cheveux rouges et un rire atroce. Le monstre sortit entièrement de dessous l'autel et montra ses membres trapus et nerveux, ses vêtements sauvages et sanglants, ses mains crochues et sa lourde hache de pierre. Le petit homme, debout sur l'autel, comme une statue sur son piédestal, semblait une des horribles idoles qui, dans les siècles barbares, avaient reçu dans ce même lieu des sacrifices impies et des sacrilèges offrandes. Son affreux visage présentait une bouche sanglante et des dents de bête fauve. Il ne parlait plus. Aucune parole humaine ne s'échappait de son gosier pantelant. Un mugissement sourd, entremêlé de cris rauques et ardents, exprimait seul sa rage. C'était quelque chose de plus hideux qu'une bête féroce, de plus monstrueux qu'un démon. C'était un homme auquel il ne restait rien d'humain.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Victor Hugo, ce matin, est au programme en compagnie du spécialiste et biographe de Victor Hugo, Jean-Marc Ovas. Vous venez d'entendre un extrait d'En d'Islande, le premier roman publié donc de Victor Hugo. Dans l'extrait entendu, le héros du roman s'apprête à tuer En d'Islande, qui est une espèce de monstre sanguinaire qui terrorise la province. On est ici dans une représentation, disons, premier degré de la monstruosité. Le monstre, c'est celui qui est méchant, c'est celui qui incarne le mal, et le but, c'est d'en venir à bout.
Oui, mais pas tout à fait. Hein. C'est ce que je croyais. Puis en préparant cette émission, j'ai un peu relu. Alors c'est un monstre. Il est totalement misanthrope. Il déteste l'humanité, mais il a quand même lui aussi finalement un lien avec l'humanité tout de même. Donc il a violé une femme autrefois et il a un fils et il aime ce fils. Et ce fils est assassiné. Et ça commence par la mort. Ça commence. Le premier chapitre, c'est une scène à la morgue. Et c'est assez amusant puisque on se croirait dans un feuilleton américain. Ça commence par un dialogue à la morgue où on se demande comment le personnage est mort et d'abord qui c'est et comment il est mort parce qu'il est défiguré.
C'est le début de Six Feet Under en fait.
La série. Exactement, exactement ça. En plus, ça commence par un dialogue. C'est très vif. C'était assez sidérant. Et alors les personnages discutent. Puis c'est là qu'apparaît déjà le monstre. On dit il est défiguré. Il a été tué par En d'Islande qui est le monstre. Habituel. Donc il y a un discours sur lui et le discours, et là aussi c'est quelque chose qui m'a attiré mon attention et qui m'a amusé. Parmi les méfaits de ce personnage, le premier méfait qui apparaît, et c'est juste incident comme ça, mais aujourd'hui ça nous fait rêver, c'est il a mis le feu à la cathédrale. Donc il a brûlé la cathédrale de la ville, ça se passe en Norvège effectivement, et ça c'est amusant parce que pendant Notre-Dame de Paris on en a parlé mille fois, personne n'est allé chercher cet extrait qui est finalement plus saisissant que Notre-Dame de Paris, parce que Notre-Dame de Paris, il y a un incendie, mais c'est...
Oui, il faut dire que quand même, Hugo avait déjà décrit Notre-Dame de Paris en feu.
Oui, mais c'est Quasimodo qui fait un feu, c'est pas tout à fait la même chose. Alors que là, ouais. C'est véritablement le monstre qui a mis le feu à la cathédrale. Et pourquoi est-ce qu'il a mis le feu à la cathédrale? C'est parce que son fils travaille dans une mine de cuivre, et ils ont pas de travail, et donc il brûle le toit de la cathédrale, parce qu'il va falloir racheter du cuivre pour le refaire le toit. C'est quand même assez... Bon, bah, c'est une parenthèse. Mais donc ce monstre, il est furieux parce que son fils, qui était la seule personne qu'il aimait, a été assassiné par un soldat, et donc pour se venger, il décide de tuer toute la garnison.
Donc il a une raison d'être méchant.
Exactement. Et du coup, il se rapproche déjà du fameux Triboulet devenu Rigoletto dans Le Roi s'amuse, le bouffon qui est transfiguré par sa paternité. Et il y a quelque chose déjà de ça chez En d'Islande. Donc c'est un misanthrope total. Il déteste l'humanité, il boit. Alors du coup, voyant son fils mort, il va à la morgue. Il vole le cadavre de son fils. C'est vraiment un roman gothique. Hein, et il récupère son crâne. Et après, il boit le sang des hommes dans le crâne. C'est devenu une espèce de topos, de lieu commun du gothique, parce que tout le monde s'est moqué de lui après dans la critique. Donc il boit le sang des hommes dans le crâne de son fils. Et donc il est toujours avec le crâne de son fils. Donc c'est vraiment très très gothique, c'est violent. Mais il y a tout de même cette idée-là. Et le héros, donc ce En d'Islande, est à moitié un monstre, à moitié un homme. Il est roux, comme le sera d'ailleurs Quasimodo. Et son visage, alors, il n'a pas encore de stigmate particulier, puisqu'on parle du visage. Il est laid, il est effrayant, et il est animal. Ça, c'est vraiment, il y a sans arrêt un lien avec l'animalité, ce qu'on retrouvera aussi dans L'Homme qui rit. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il a un ami, quand même, et cet ami, c'est un ours. Voilà, il l'appelle « friend ». Donc l'ami en anglais, c'est quand même quoi. Il s'appelle Friend et ils vivent ensemble. Ils vivent avec cet ours qui l'aide. Et au moment du combat qu'on a entendu, il combat le héros qui s'appelle Ordonneur Golden Love, Golden Lou. Et on a les lettres de Hugo, Ordonneur Gu, Ogu, Hugo. Donc c'est en fait une figure, le héros noble, noble visage, noble figure. C'est toujours l'adjectif noble. Et en fait, il gagne. Il va tuer le héros, mais des soldats, des militaires ont pris en ont attaqué son ours, et donc il est rappelé par un cri de son ours qui est son ami, donc il abandonne, il tue pas le héros pour aller sauver son véritable ami qui est l'ours. En tout cas, il y a ce lien avec l'animalité qui est extrêmement, extrêmement important. Et quand on réfléchit, et c'est le deuxième grand combat du roman, le premier grand combat, c'est contre un loup, justement. Bref, et quand on commence.
Loup qu'on retrouvera aussi.
L'homme qui rit, voilà, on a les trois. L'homme, le loup et l'ours. C'est incroyable d'avoir ça. Il a donc 19 ans et il écrit ce roman. Et d'avoir l'homme qui rit, il a 67 ans quand il le publie. Donc c'est vraiment incroyable de trouver autant de choses dans ce premier roman.
Y compris cette fascination pour le visage, parce que finalement, lorsqu'il décrit et traque les visages, y compris les plus hideux, c'est comme s'il cherchait à inscrire le personnage qu'il crée sur l'échelle qui conduit de la monstruosité à l'humanité en passant par l'animalité. Il essaye de voir. Et de même, d'ailleurs, on pourrait penser aux photographies de Victor Hugo qui nous regardent. On se demande si lui-même n'est pas en train de s'interroger sur son statut d'humain ou d'animal. Il aurait bien aimé être un animal quelque part, non?
Alors lui, c'est difficile à dire, mais en tous les cas, c'est dans toutes les descriptions de ses romans, hein, vraiment des personnages de ses romans, le lien. Alors c'est manifeste aussi dans Les Misérables, mais le lien avec l'animal est toujours présent. Mais il est obsessionnel dans Distant. Donc dès le début, vraiment, il est toujours. Alors il est comparé au tigre, au chien, au loup, enfin à tous les animaux, mais surtout le tigre dans ses moments les plus horribles. C'est systématique, mais le visage lui-même, ce sera beaucoup plus précis, pour ainsi dire, dans Notre-Dame de Paris, donc une dizaine d'années plus tard. C'est vraiment dans Andisland, c'est quand même les cheveux, le regard et les dents animales, des dents qui ont des trous entre les dents, des dents pointues, acérées, comme un animal féroce.
Vous donnez envie de le lire, en tout cas. H-A-N, hein, donc c'est le nom du monstre.
Andisland, donc c'est effectivement le cri qui pousse, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé. Il est d'origine islandaise, hein, c'est pour ça qu'il s'est pas de, ce titre n'est pas non plus un piège, c'est bien, il est bien islandais d'origine, mais An, c'est le cri qu'il pousse quand il commet des crimes.
Jolly! Oh Jolly, ma petite bête! Ma chèvre, c'est toi!
J'ai pu la trouver et l'emporter, Esmeralda! J'étais sûre que vous seriez contente!
Oh, merci, Quasimodo! Une chèvre et un sourd. Voilà mes seuls amis. Et l'un me fait si peur que je voudrais mourir plutôt que de l'approcher. Jamais je ne pourrais m'habituer à sa vue. Pourtant, il est si bon, pauvre Quasimodo.
Inconsciente, Esmeralda. Pure et simple comme l'enfant qui croit à son rêve. Et tout près de l'ange, la bête rêvait aussi. Appuyant sa tête difforme contre les gargouilles. Plus monstrueuse encore d'être pétrie dans la chair et le sang.
Hélas, que ne suis-je de pierre comme toi? Avec ses ciseaux et son marteau, le sculpteur t'a fait horrible. Mais tu t'en moques d'avoir la face tordue et les oreilles pointues du démon. Gargouille du diable! Tu n'as pas de cœur, tandis que moi, je souffre. Tu vois, mon malheur, c'est que je ressemble encore trop à l'homme. Je voudrais être tout à fait une bête. Comme sa chèvre, tiens, comme sa petite chèvre.
Le grotesque est, selon nous, la plus riche source que la nature puisse ouvrir à l'art. Rubens le comprenait sans doute ainsi lorsqu'il se plaisait à mêler à des déroulements de pompes royales, à des couronnements, à d'éclatantes cérémonies, quelques hideuses figures de nains de cour. Cette beauté universelle que l'Antiquité répandait solennellement sur tout n'était pas sans monotonie,
La même impression, toujours répétée, peut fatiguer à la longue. Le sublime sur le sublime produit malaisément un contraste et l'on a besoin de se reposer de tout, même du beau. Il semble au contraire que le grotesque soit un temps d'arrêt, un terme de comparaison, un point de départ d'où l'on s'élève vers le beau avec une perception plus fraîche et plus excitée. Le beau n'a qu'un type, le laid en a mille. C'est que le beau à parler humainement n'est que la forme considérée dans son rapport le plus simple, dans sa symétrie la plus absolue, dans son harmonie la plus intime avec notre organisation. Ce que nous appelons le laid, au contraire, est un détail d'un grand ensemble qui nous échappe et qui s'harmonise non pas avec l'homme, mais avec la création tout entière. Voilà pourquoi il nous présente sans cesse des aspects nouveaux mais incomplets.
France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett.
Et pour terminer cette série sur le visage, on parle des visages défigurés dans l'œuvre de Victor Hugo ce matin, en compagnie de son biographe Jean-Marc Ovas. Alors puisqu'on est arrivé à Quasimodo, hein, vous avez entendu l'extrait radiophonique, on a trouvé ça, c'est une archive de l'INA, hein, on entendait Anne Capril et Jean-Marie Amato. Quasimodo qui enviait le fait d'être bête, il s'adresse à la gargouille qui a l'effet de pierre, il dit « Mon malheur, c'est que j'ai un cœur, je voudrais tout à fait une bête ». Eh bien pour comprendre cette conception de Quasimodo, il faut faire un détour et je l'ai fait grâce à ce texte que j'ai lu qui est la préface de Cromwell qui chronologiquement est publiée donc avant Notre-Dame de Paris avec l'introduction de ce terme indispensable pour continuer cette discussion, le grotesque. Jean-Marc Ovas.
Oui, merci, c'est très bien de passer comme ça par ce moment théorique. En fait, on connaît la préface de Cromwell parce que on en parle dans l'évolution du théâtre de Victor Hugo, dans la conception du théâtre romantique. Mais c'est bien plus que ça. C'est véritablement une esthétique de Victor Hugo. Donc ça déborde très largement le théâtre puisque finalement ça s'applique à toute son œuvre, quel que soit le genre. Et donc il l'écrit 5 ans après la publication de Handisland et 4 ans avant la publication de Notre-Dame de Paris. On est vraiment à mi-chemin et c'est un grand moment de réflexion. Et la grande idée, donc, c'est le passage que vous avez lu, cette introduction du grotesque au revers du sublime, qui est très importante pour le comprendre. Et c'est là où je fais allusion à l'Espagne. Il y a beaucoup de références espagnoles dans cette préface, entre autres, même si le grand auteur convoqué, c'est Shakespeare. Hein, c'est l'idée, c'est qu'il y ait toujours, il n'y a pas de personnage sublime, il n'y a pas de personnage grotesque. Tous les personnages sont des mélanges des deux. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que dans la pièce de Cromwell, que plus personne ne connaît, mais qui suit la préface dans l'édition, il y a des bouffons, comme il y en a chez Shakespeare. Ce sont les bouffons qui incarnent le grotesque. C'est une possibilité. Mais ce que dit Hugo, et encore mieux, c'est que c'est Cromwell lui-même qui est à la fois un héros et qui porte sa... Comme chacun de nous, d'ailleurs, nous portons notre propre contradiction, notre propre caricature en nous-mêmes. Donc les personnages sont des ensembles, on est une totalité. Et l'idée dans la préface qui est présentée, c'est que c'est chronologiquement, ça s'est repris à Chateaubriand, mais que c'est le christianisme qui a permis d'apporter cette dimension-là à l'esthétique. C'est plus le sublime monolithique de l'Antiquité, c'est l'homme entier, l'homme complet, qui est à la fois un corps et un esprit. Donc un corps, ça peut être un corps grotesque et un esprit sublime, par exemple.
Mais est-ce que ça relativise le manichéisme qu'on pourrait parfois reprocher à Victor Hugo? Il y a vraiment le bien d'un côté, le mal et
oui,
le mal de
évidemment.
L'autre.
Oui, évidemment. Ça, c'est vraiment les gens qui ne connaissent pas Victor Hugo qui disent ça. Mais ça a été son reproche permanent. C'est le reproche qu'on lui a adressé de tout temps et dès la plus violente et la plus archétypique, c'est sans doute la critique de Goethe qui a eu le temps de lire Notre-Dame de Paris avant de mourir et qui a attaqué là-dessus. C'est le fait que ces personnages sont des marionnettes, mais c'est faux. C'est vraiment, ça résiste pas du tout à la lecture attentive. Alors bien sûr, ça paraît caricatural parce que c'est le monstre qui est le personnage le plus beau intérieurement, mais il n'y a pas que ça. Enfin, c'est beaucoup plus subtil que ça.
C'est ce que le grotesque nous enseigne, justement. Exactement. C'est l'assemblage des deux.
Exactement. Et donc, c'est a priori, ce serait même plutôt l'inverse du manichéisme, même si ça passe aussi par cette division qui paraît un peu caractéristique par moment, mais il y a beaucoup plus que la simple antithèse. C'est la figure oxymorique qu'on lui reproche aussi toujours d'utiliser des antithèses, mais non, il va bien au-delà. C'est presque un début, l'antithèse, avant d'opérer quelque chose de beaucoup plus total et synthétique.
Avec la conceptualisation du grotesque, Victor Hugo aussi choisit un type d'écriture qui est le drame, justement. Le drame est ce qui va être envahi par le grotesque tout en étant habité par le sublime. Il a distingué les différents âges de l'art. Il y a l'ode pour les temps primitifs, l'épopée pour l'antiquité. Et donc, la troisième période, le drame. Est-ce qu'on peut dire que Notre-Dame de Paris est un drame? En
oui,
ce sens.
On peut d'autant plus le dire que il théorise le roman. C'est vrai que pour lui, le roman, notamment à cette époque-là, part du drame, si on veut dire. C'est-à-dire que pour lui, le roman idéal, c'est une pièce de théâtre dont les didascalies sont remplacées par des descriptions. Donc tout ce qui est indiqué dans les pièces de théâtre, tout ce qu'on n'a pas besoin de dire dans le théâtre, c'est-à-dire la description du costume, la description des lieux parce qu'on les voit, eh bien, ça doit être pris en charge dans le roman par la description. Mais sinon, c'est conçu, le roman, pour lui, comme une pièce de théâtre avec des scènes, des grandes scènes.
Le maître étant Shakespeare.
Des retournements, absolument. Et en quelque sorte, sa théorie du roman, s'il y en a une, ce serait vraiment une conséquence de celle un élargissement de celle du théâtre. C'est vraiment le roman doit être pour lui le roman idéal, c'est une pièce de théâtre racontée en fait. Donc c'est d'ailleurs intéressant parce que on sait le succès qu'ont eu ces œuvres et ont encore d'ailleurs régulièrement au théâtre, au cinéma, en comédie musicale, avec toutes les adaptations. Lui-même écrivait comme ça, c'est-à-dire qu'il écrivait. C'était d'abord aussi un excellent dramaturge. Je pense que il concevait ses livres. Il le dit hein, lui-même. Il concevait ses livres comme des pièces de théâtre dont il narrativisait, pour ainsi dire, tout ce qu'on peut pas montrer au théâtre, tout ce qu'on peut pas montrer dans le roman. Pardon, il le racontait de façon narrative.
Mais ça veut dire qu'il avait besoin d'autre chose. Sinon, il n'aurait écrit que des pièces de théâtre. Le roman lui permettait aussi d'écrire des dizaines de pages sur la bataille de Waterloo, par exemple.
Les digressions, ça c'est sûr que c'était permis par le roman, mais peut-être des digressions, mais justement tout tient quand même parce qu'il y a cette structure extrêmement forte qui est la même structure que celle d'une pièce de théâtre au départ. Après, il peut élargir, mais c'est les choses tiennent. C'est ce qu'il dit quand il reprend l'écriture des Misérables. Ça se tient et c'est se tient comme une intrigue de théâtre. Donc la préface de Cromwell, voilà, c'est vraiment l'esthétique du premier Hugo, du Hugo d'avant l'exil, et ça va bien plus loin que le théâtre lui-même.
Alors revenons-en au visage, enfin arrivons au visage, oui. À celui de Quasimodo. On l'a entendu parler dans l'extrait juste avant. On va entendre un texte qui décrit cette merveilleuse grimace. Pour resituer rapidement, on est au début de Notre-Dame de Paris, a lieu l'élection du pape des fous. L'élu, c'est celui qui fera la grimace la plus laide. Les participants montrent leur visage à travers une espèce de vitre brisée du centre de la rosace de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. C'est au tour de Quasimodo. Il arrive, la foule est stupéfaite jusqu'à ce que l'on comprenne que la grimace du bossu n'est pas feinte, il est né ainsi.
C'était une merveilleuse grimace que celle qui rayonnait en ce moment au trou de la rosace. Après toutes les figures pentagones, hexagones et hétéroclites qui s'étaient succédées à cette lucarne, sans réaliser cet idéal du grotesque qui s'était construit dans les imaginations exaltées par l'orgie, il ne fallait rien moins pour enlever les suffrages que la grimace sublime qui venait d'éblouir l'assemblée. Nous n'essaierons pas de donner au lecteur une idée de ce nez tétraèdre, de cette bouche en fer à cheval, de ce petit œil gauche obstrué d'un sourcil roux en broussaille, tandis que l'œil droit disparaissait entièrement sous une énorme verrue, de ses dents désordonnées, ébréchées çà et là, comme les créneaux d'une forteresse, de cette lèvre calleuse sur laquelle une de ses dents empiétait comme la défense d'un éléphant, de ce menton fourchu, et surtout de la physionomie répandue sur tout cela, de ce mélange de malice, d'étonnement et de tristesse. Qu'on rêve si l'on peut cet ensemble. L'acclamation fut unanime. On se précipita vers la chapelle. On en fit sortir en triomphe le bienheureux pape des fous. Mais c'est alors que la surprise et l'admiration furent à leur comble. La grimace était son visage. Thank you.
Ai-je raison d'entendre dans ce texte, Jean-Marc Ovas, quand même un certain plaisir, voire même une jouissance, prise par Hugo à décrire ce qui est absolument insoutenable à regarder?
Insoutenable à regarder, c'est peut-être pas tout à fait le terme qui convient, parce que effectivement c'est horrible, mais c'est en même temps fascinant, c'est séduisant. Dans ce texte-là, donc la présentation du visage de Quasimodo, j'avais oublié à quel point il y a deux passages dans le texte. Celui qu'on n'a pas entendu, c'est le concours donc de tous les bon déjà les figures médiévales, il y avait beaucoup de gens des gens affreux, et donc il y a d'abord une série, on voit passer tous les visages un par un, mais il l'écrit dans un texte synthétique. Donc on a l'impression que c'est déjà le visage de Quasimodo, mais non, c'est en fait 50 visages ou tous ceux qui ont participé au concours et qui font des grimaces horribles dans la rosace. Et donc on a là un ensemble de visages, et il utilise le terme de kaléidoscope. C'est assez un terme vraiment intéressant pour montrer cela. Et puis après, une page après, on a le texte qu'on vient d'entendre qui... Il dit pourquoi est-ce qu'il dit je renonce à le décrire, parce qu'en fait il a déjà décrit la même chose quasiment, mais séparé dans chacun des traits dans chacun des visages différents, et là on a tous ces visages quasiment réunis en un seul, et c'est celui de Quasimodo. De la complaisance, je crois pas, mais de l'intérêt.
Il adore décrire ce qui est absolument dégueulasse quand même, non? Enfin, ça, on le retrouve dans beaucoup de textes.
Bah non, c'est parce que c'est des extraits qu'on a pris, mais enfin, il décrit aussi des choses sublimes.
Mais c'est pas un problème.
Non, pas du tout, mais simplement, c'est un des aspects de son écriture, mais c'est pas systématique, si vous voulez. Ce qui l'intéresse, c'est, aussi le lien, parce que un peu plus loin dans le roman, on revient en arrière et on voit comment est-ce qu'il en est arrivé là, et on a la même description dans son berceau. Donc ouais. il c'est pas vraiment son berceau puisqu'il a 2 ou 3 ans, mais il est tellement affreux que personne n'ose le regarder, donc personne n'arrive à lui donner un âge. Et c'est là que Claude Frollo, le héros du roman, enfin un des héros, l'archidiacre de Notre-Dame de Paris, l'adopte, et donc là aussi c'est un personnage terrible, cet archidiacre, mais là aussi par cette adoption il le sauve, puisque personne, aucune des dames du Moyen-Âge qui le voit sur ce berceau ne veulent même le regarder. Elles disent on va avorter uniquement en le regardant, enfin c'est épouvantable. Et lui là il dit je l'adopte, et par ce geste il le prend et il le sauve, puisque il le prend avec lui, il l'élève, et c'est comme ça qu'il devient qu'il l'emmène avec lui à Notre-Dame de Paris et qui devient le sonneur de cloche de Notre-Dame. Donc il y a
c'est un sauvetage ambivalent, parce que par ailleurs il le maintient enfermé, il l'interdit de sortir, il fait tout pour que Quasimodo ne puisse pas vivre en société.
Mais non, mais c'est pas qu'il fait tout, c'est que Quasimodo ne peut pas vivre en société, parce que la seule fois où il sort, c'est justement là.
Vous sauvez Frollo.
Ah bah oui.
Ah oui.
Non mais la seule fois où il sort, c'est ce qui se passe là. Il est élu pape des fous, tout le monde se moque de lui, c'est atroce. Et son père putatif lui dit, enfin son père adoptif, pardon, lui dit, en gros, voilà ce qui se passe si tu sors. Il est en dehors de l'humanité, mais il est quand même sauvé par et c'est même plus complexe que ça, parce que Frollo a un frère qui est un personnage important, qui est géant Frollo dans la pièce, un personnage très sympathique. Et en gros, il est dit, quand il l'adopte, le monstre, que ça va lui permettre en même temps de faire un échange. Il éduque son frère, mais l'idée d'avoir ce monstre, d'avoir sauvé ce monstre, va lui permettre de mieux pouvoir éduquer son petit frère. Donc c'est assez étrange, il y a une espèce d'échange, d'ailleurs les deux personnages seront liés jusqu'au bout du roman. Il y a quelque chose à étudier de ce côté, sur ce point-là, sur ce sujet-là.
Mais le roman ne montre-t-il pas que lorsque Quasimodo ose affronter le monde extérieur, puisqu'il va tomber amoureux d'Esmeralda, que finalement de cette hideur physique va pouvoir naître une forme de grandeur morale, et que dès lors, ça aurait été bien dommage qu'il reste enfermé dans la cathédrale toute sa vie.
Oui, non, bien sûr, bien sûr. Et puis, ce serait pas ni souhaitable ni possible. Si, bien sûr, vous avez raison, bien sûr.
Et là, c'est là où on a pu lui reprocher ce manichéisme, parce que Hugo identifie la monstruosité à une grandeur morale, en fait. Ça arrive dans ce roman-là.
Voilà, bah oui, puisque quand même, j'ai dit que n'était pas à 100% un monstre, mais si on mettait un pourcentage de monstruosité et d'humanité dans les personnages, du côté de, quand on arrive à Quasimodo, déjà on est beaucoup plus partagé. Mais on a entendu la description du monstre, on se souvient des images, soit des illustrations, mais surtout finalement au cinéma, il y a énormément de versions où on n'a pas un Quasimodo aussi monstrueux. Ouais. On a du mal à le montrer. Et il est parfois, bon, et bien sûr, bossu, un peu difforme, mais il n'est pas aussi effrayant que dans le roman. C'est difficile à montrer au cinéma, et pourtant Dieu sait qu'il y a eu des versions.
Si on saute dans le temps de Notre-Dame de Paris, publié en 1831, à L'Homme qui rit en 1869, que reste-t-il du visage défiguré? Que devient la laideur? Voici un extrait de L'Homme qui rit.
Un enfant destiné à être un joujou pour les hommes. Cela a existé. Cela existe encore aujourd'hui. Aux époques naïves et féroces, cela constitue une industrie spéciale. Pour que l'homme hochet réussisse, il faut le prendre de bonne heure. Le nain doit être commencé petit. On jouait de l'enfance. Mais un enfant droit, ce n'est pas bien amusant. Un bossu, c'est plus gai. De là un art, il y avait des éleveurs. On prenait un homme et l'on faisait un avorton. On prenait un visage et l'on faisait un mufle. On tassait la croissance. On pétrissait la physionomie. Cette production artificielle de cas tératologiques avait ses règles. C'était toute une science. Qu'on s'imagine une orthopédie en sens inverse. Là où Dieu a mis le regard, cet art mettait le strabisme. Là où Dieu a mis l'harmonie, on mettait la difformité. Là où Dieu a mis la perfection, on rétablissait l'ébauche. Et aux yeux des connaisseurs, c'était l'ébauche qui était parfaite. On savait produire dans ces temps-là des choses qu'on ne produit plus maintenant. On avait des talents qui nous manquent, et ce n'est pas sans raison que les bons esprits crient à la décadence. On ne sait plus sculpter en pleine chair humaine. Cela tient à ce que l'art des supplices se perd. On était virtuose en ce genre. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett.
Alors je m'adresse au prof de littérature française que vous êtes, Jean-Marc Ovas. Comment on définit ce ton-là employé par Hugo? C'est de l'ironie?
Bien sûr, c'est un passage... C'est incroyable parce que c'est une histoire terrifiante qu'il raconte sur le temps historique, c'est au début du roman. C'est même un chapitre qui n'est pas dans le roman, ça s'appelle chapitre préliminaire, c'est avant le roman. Cette histoire des comprachicos, donc on ne sait pas où il l'a trouvé d'ailleurs, hein, c'est une histoire de secte, de groupement d'hommes qui avaient pour fonction de défigurer les enfants et de les revendre ensuite pour en faire des monstres. C'est vraiment la nouveauté de ce roman par rapport aux autres, puisqu'on a fait un trajet chronologique, c'est intéressant. La grande idée, c'est vraiment la différence est sidérante par rapport à tous les autres romans et par rapport à Notre-Dame de Paris, c'est que là, c'est une intervention humaine. Donc la déformation, la défiguration du visage est un travail de l'homme sur l'homme. Et alors, évidemment, quand il dit que c'est la décadence parce qu'on ne sait plus faire ça, alors qu'on savait le faire.
On ne sait plus sculpter en pleine chair humaine. Cela tient à ce que l'art des supplices se perd. On était virtuose en ce genre.
Voilà, c'est pour vraiment. Là, il se moque de ceux qui se moquent de son goût pour le progrès. Là, il explique que justement ceux qui regrettent le passé, ceux qui regrettent le passé, ils doivent regretter ce genre de choses puisqu'il n'y avait pas de limite à ce qu'on pouvait faire à l'humain. Alors évidemment, L'Homme qui rit, c'est le roman. Je dis que c'était le roman que préféraient souvent les gens qui aimaient Hugo, mais c'est aussi le roman préféré normalement de ceux qui s'intéressent à Hugo, philosophe. Parce que c'est vraiment. Alors je vous ai pris juste un petit extrait d'un reliquat qui n'a pas été publié, donc qui n'est pas dans le. Il y en a souvent des pages que Hugo n'a pas enlevé de son roman, mais il y a un petit passage où il prend un peu de recul, justement dans cette présentation des comprachicos. Le sujet de ce livre, pour ceux qui voudront bien lire ces volumes avec attention, est humain, il est philosophique et non historique. Si ce livre se rattache à quelque chose, c'est au côté éternel de l'homme et non au côté passager. Il y a énormément de réflexions sur le... Alors, si vraiment... quand on parlait de cette émission sur le visage, c'est vraiment l'homme qui rit. Enfin, c'est vraiment le sujet de l'homme qui rit. Cette réflexion permanente d'Hugo sur ce que les hommes peuvent faire aux hommes et cette histoire de la défiguration de l'humanité. Alors, on peut le prendre pour une métaphore, c'est-à-dire que le personnage Gwynplaine va avoir un rôle politique et à ce moment-là, parce que finalement, il a été défiguré, c'était pas un hasard, donc parce que il avait été enlevé et confié à ses hommes comme une modalité du masque de fer. Si vous voulez, c'est dit à un moment, donc on pouvait enfermer un noble qu'on voulait pas voir, on pouvait l'enfermer en mettant un masque. C'est l'histoire du masque de fer, mais là, c'est encore mieux parce que le masque est sur le visage. Donc c'est la suite directe de la phrase de Notre-Dame de Paris. Sa grimace était son visage. Là, c'est ça. C'est vraiment toute une réflexion sur l'intérieur et l'extérieur, l'apparence et l'être.
Et jusqu'à cette scène sublime où elle se retrouve dans la chambre des lords à dresser un discours. Alors là, on est, oui, le sublime est le terme et celui employé par Hugo. On dépasse même le grotesque. Ou alors c'est la définition du grotesque dans tout son ensemble. C'est quand le plus hideux rejoint le sublime. Ça provoque une scène extraordinaire.
Ça provoque une scène extraordinaire qui est cette scène à l'assemblée, à la chambre des lords, où Gwynplaine vient faire un discours puisqu'il se trouve que donc il est lord.
On peut faire un petit spoiler.
C'est un lord, et donc il a sa place à la chambre des lords. Et comme il a été élevé donc dans une cabane, il est la représentation du peuple. Eh bien, il vient dire à la chambre des lords ce qu'est la misère et ce qu'est la pauvreté. Et bien sûr, on fait le lien avec Hugo en 49 faisant son discours sur la misère. Et les députés se moquant de lui. Donc c'est évidemment amplifié horriblement. Là c'est Gwynplaine qui arrive à contenir sa grimace au début de son discours parce qu'il doit faire des efforts terribles pour, et puis à un moment il arrive plus, dès qu'il on l'attaque un peu, on lui lance un colibé et il arrive plus et il apparaît avec sa grimace, et là toute l'assemblée ne l'écoute plus du tout. Il a fait un discours sur la misère en disant que lui-même était la figure du peuple, c'est-à-dire la figure de l'homme défiguré, et plus personne ne l'écoute, et toute l'assemblée éclate de rire. C'est vraiment c'est une des scènes les plus marquantes du roman.
À relire de toute urgence aujourd'hui, parce que là, pour le coup, il y a une forme d'actualité qui est très déconcertante, comme beaucoup chez Hugo. Hein, c'est à la fois un homme vraiment de son siècle et en même temps qui diagnostique des rapports entre les êtres humains qui sont toujours autant d'actualité. La grande force de l'homme qui rit, c'est aussi de décrire cette histoire d'amour entre Gwynplaine défigurée et Dea, qui, elle, est aveugle. Alors, pourquoi vont-ils s'aimer ? Eh bien, comme elle ne le voit pas, elle ne sait pas qu'il est horrible. Et il y a donc cette espèce de complémentarité qui est très réussie parce que, n'en déplaise à ses détracteurs, justement, elle n'est pas manichéenne. C'est pas simplement le propos n'est pas de dire il faut fermer les yeux, alors la laideur, on ne la voit plus, ou l'essence est plus importante que l'apparence. Le lien, le type de relation qu'entretiennent Gwynplaine et Dea, quelque chose qui dépasse largement ce prisme moral.
Oui, elle est si peu manichéenne, du reste, que Gwynplaine, tout amoureux qu'il est depuis l'origine de Dea, va être fasciné par la duchesse Josiane, qui elle, est une duchesse, est attirée par sa monstruosité, précisément. Et là, il y a vraiment aussi toute une réflexion. C'est très peu manichéen. Je reviens juste sur le passage où il est dans la chambre des lords, où il explique où il donne peut-être la clé de sa défiguration. Donc au moment où tout le monde s'est mis à rire, et là, il c'est la fin de son discours, parce qu'après il va partir parce que c'est terminé. Ce rire qui est sur mon front, c'est un roi qui l'y a mis, puisque donc il a été défiguré volontairement. Ce rire exprime la désolation universelle, ce rire veut dire haine, silence contraint, rage, désespoir, ce rire est un produit des tortures, ce rire est un rire de force. Si Satan avait ce rire condamnerait Dieu. Ah, vous me prenez pour une exception, je suis un symbole. Ô tout-puissants imbéciles que vous êtes, ouvrez les yeux, j'incarne tout, je représente l'humanité telle que ses maîtres l'ont faite. L'homme est un mutilé, ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence, comme à moi les yeux, les narines et les oreilles. Ah, donc c'est vraiment, donc là il livre la clé de cette déformation ou une clé métaphorique, mais ça n'épuise pas l'essence, hein, tous les sens que peuvent avoir cette défiguration. Mais enfin, là, il le dit en toute lettre, clairement.
C'est des phrases qui auraient pu être prononcées par le personnage du Joker. On peut y revenir, parce qu'on a ouvert l'émission avec cette comparaison, et vous disiez que le Joker, et pas simplement le film qui vient de sortir, mais le personnage du Joker, oui, qui est quand même qui le précède, était directement inspiré de Gwynplaine.
Absolument. Le physique, d'ailleurs, bon, il y a eu énormément, souvent au XIXe siècle, les premières illustrations du roman donnent le canon pour toutes les illustrations ultérieures. Les premières gravures de Javert ou de Jean Valjean, on peut faire la filiation jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des reproductions, des illustrations, pardon, dès les éditions deuxième ou troisième édition du roman, et cette tête avec le sourire qui monte jusqu'aux oreilles et les dents ouvertes, etc., c'est la même tête que celle du Joker. Il y a un lien direct et une référence à ces Gwynplaine aujourd'hui. Oui.
D'ailleurs, le Joker, c'est aussi celui qui rit sans faire exprès, celui que la cruauté de la société a forcé à rire, sauf que lui, il passe à l'acte. C'est une grande différence aussi. Lui va tuer.
Oui, tout à fait. Là, c'est un retour de Gwynplaine à Andisland.
Ah oui, c'est ça, vous le voyez comme la rencontre.
Si on peut dire, oui.
Mais est-ce que ça veut dire que pour Victor Hugo, les responsables, est-ce que c'est la société ou est-ce que c'est l'humanité? Est-ce que c'est pas pareil? Cette monstruosité qu'il dénonce, est-ce qu'elle est conjoncturelle? C'est la société dans laquelle il vit ou c'est l'homme qui est un monstre pour l'homme?
Oui, c'est vraiment intéressant. Donc quand on lit le roman, c'est l'humanité au départ, toute cette histoire des comprachicos, c'est vraiment une critique, c'est vraiment l'homme qui est un loup pour l'homme. C'était vraiment incroyable d'imaginer que il y a une secte comme ça de gens qui défigurent pour le plaisir. Mais très vite, il explique que pourquoi on fait ces monstres, pour qui on fait ces monstres. On les fait pour les rois, on les fait pour les puissants qui doivent avoir à côté d'eux un bouffon ou un monstre qui les amuse et qui les met en valeur. Donc c'est quand même la société. Et puis, au fur et à mesure du roman, toute l'intrigue, et puis cette scène qui est dans la Chambre des Lords, là, ça devient vraiment une critique de la société. Mais les deux sont quand même tout à fait liés, malgré tout.
Il y a cette scène aussi qui marque dans L'Homme qui rit, où il rencontre où Gwynplaine rencontre des pendus couverts de goudron. Il écrit « Une fascination lugubre tenait l'enfant. Il regardait au-dessus de lui cette face qui le regardait. Et elle le regardait d'autant plus qu'elle n'avait pas d'yeux. C'était du regard répandu, une fixité indicible où il y avait de la lueur et des ténèbres et qui sortait du crâne et des dents aussi bien que des arcades sourcilières vides. Toute la tête de mort regarde et c'est terrifiant, pas de prunelles et l'on se sent vu, horreur des larves. »
Ça, c'est le début du roman qui est vraiment fascinant. C'est un début de roman entièrement en noir et blanc pour le coup, puisque c'est une errance dans la neige et il tombe sur un pendu. Quand on pense au visage, ce qu'il y a d'étonnant dans tout ce début aussi, c'est qu'on oublie qu'il est défiguré, puisqu'il ne voit personne, il voit ce mort. Et donc personne n'est là pour dire qu'il est défiguré. Et on l'oublie, puisqu'on sait, on a entendu parler des comprachicos au début du roman. On comprend qu'il est débarqué sur la côte, puisqu'ils sont sur un bateau. Et après, on oublie qu'il est défiguré, puisqu'il traverse ce paysage de neige et de froid glacial, sans voir personne, sauf ce mort, ce pendu. Après, il tombe sur une femme morte. Cette femme morte a un bébé qui sera Déa ensuite, qu'il sauve. Donc, que des personnes qui ne peuvent pas parler. Et il arrive enfin, après toute une... Il traverse une ville où il voit personne non plus, c'est pendant la nuit. Et il arrive enfin chez Ursus qui le prend. Et c'est la nuit, donc Ursus ne le voit pas non plus. Et c'est qu'à la fin, le matin, il le voit. Et là, il constate, c'est le premier extrait qu'on a entendu, il constate qu'il rit. Il dit « Mais pourquoi ris-tu » Et l'enfant dit « Mais je ne ris pas ». Et il répond « Alors tu es terrible ». Donc on a oublié pendant tout ce début du roman, mais avec cet épisode aussi du cadavre, du pendu, on a oublié cette histoire. C'est un début vraiment absolument saisissant. C'est peut-être un des débuts les plus saisissants de tous les romans.
La boucle est bouclée, on termine avec le début. On aurait pu parler de Fantine qui vend ses cheveux, qui vend ses dents. On aurait pu parler de tellement d'autres défigurations dans l'œuvre de Victor Hugo. On aurait pu parler du Lambeau aussi, le texte de Philippe Lançon, qui décrit une défiguration et dont le texte n'est pas sans rapport avec le sujet de la discussion du jour. Merci beaucoup Jean-Marc Ovaz d'être venu. Je rappelle que vous êtes en grève, hein, vous enseignez à Sorbonne Université, donc merci d'avoir été là et d'avoir parlé avec tant de passion de Victor Hugo et de ses gueules cassées.
Vois ma gueule, chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit. C'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? On ne va pas y passer la nuit. Ma gueule et moi, on est sortis. On cherchait plutôt des amis.
Et oui, l'eût été dommage de se priver de Johnny, de cette chanson, pour terminer cette semaine sur le visage. Je suis content de vous voir acquiescer, Jean-Marc Ovas, sur France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h, presque 53, l'heure du journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Vous revenez sur une idée ce matin, une idée dans l'air du temps.
Oui, peut-être l'avez-vous remarqué, notamment avec l'affaire autour de Roman Polanski ou le procès en cours de François Fillon, on entend beaucoup cette idée de tribunal, tribunal médiatique, tribunal d'opinion ou tribunal populaire. C'est une des grandes lignes de défense de ces figures accusées par les foules, dénoncer en retour ce tribunal informe, violent, fluctuant, autrement dit son injustice. Est-ce un reproche valable? Faut-il attendre de ce tribunal qu'il soit juste?
Je suis gênée de la tournure que prend le débat et de cette idée qui est en train de s'installer comme une évidence que parce que la justice est trop lente et pas toujours satisfaisante, il faudrait se passer de la justice et remplacer cela par une sorte de tribunal de l'opinion. Parce que le principe de la justice dans une société civilisée, c'est qu'elle permet d'entendre tous les récits, de reconstruire une vérité à partir de la diversité des récits.
Quand les affaires ont entraîné la chute dans les sondages de François Fillon en pleine campagne présidentielle, quand Roman Polanski a décidé de ne pas venir au César, ils ont tous les deux invoqué et accusé ce tribunal de l'opinion qui opère en dehors des cours de justice. Et on a pu entendre cette inquiétude, la substitution de ce tribunal à une justice en bonne et due forme. L'argument n'est pas nouveau. Depuis l'apparition du concept d'opinion publique au XVIIIe siècle, on reproche à ce tribunal autoproclamé, pour reprendre le terme de Polanski, d'agir sans foi ni loi, c'est-à-dire sans faire appel à une tierce autorité extérieure et surplombante, ni à une procédure ou des règles bien définies. Le problème est là, clair et implacable, la justice en dehors d'un cadre légal est-elle encore juste? Le présupposé qui s'y loge est tout aussi clair et implacable, seul un cadre légal serait le garant de la justice, le reste ne serait que condamnation inique et lynchage monstrueux. Je comprends bien ce problème et ce présupposé, mais il m'étonne quand même car il laisse penser qu'il y aurait une équivalence, admise et voulue, de viser entre un tribunal de l'opinion et les tribunaux, qu'ils feraient la même chose, qu'ils auraient la même finalité. Mais est-ce si sûr? Est-ce vrai que l'on attend de l'opinion publique qu'elle condamne ou relaxe comme le fait la justice?
Vous savez, vous êtes condamné d'abord souvent par le tribunal médiatique, avant même d'être condamné par le tribunal judiciaire. Donc je crois que le temps de notre modernité, celle qui nous est donnée, exige de chacun d'entre nous, lorsqu'on est un homme public aussi, de rendre des comptes quand on a à en rendre, mais aussi d'en rendre directement aux Français.
Substitution d'un tribunal à l'autre, identification de l'opinion publique à la Cour de justice, les discours actuels mettent donc l'accent, soit pour la condamner, soit pour l'expliquer et la justifier, sur la similitude entre ces deux instances. Certes, l'opinion publique juge, mais rend-elle des jugements? Envoie-t-elle en prison? Certes, vous allez me dire, l'opinion publique ostracise, stigmatise, mais a-t-elle une valeur aussi claire et figée qu'un arrêt de justice, écrit noir sur blanc, gravé dans le marbre? Ce qui est troublant quand on identifie le tribunal de l'opinion avec un tribunal de justice, c'est qu'on a en tête de condamner l'opinion publique en la renvoyant à ces tensions inextricables. Qui est-elle? Qui représente-t-elle? Comment opère-t-elle? Et en pointant ainsi sa puissance violence illégitime. Mais pourquoi opposer opinion et justice? Pourquoi vouloir légitimer l'opinion publique aux mêmes conditions que la justice? Quand on se penche sur l'histoire de cette notion, sa dimension juridique, judiciaire, de justicier, n'est pas sa finalité première. Elle est une puissance politique, de contre-pouvoir étatique ou de délibération collective, elle est une puissance sociale, elle a aussi une dimension morale puisqu'elle décide des honneurs et déshonneurs, mais elle ne se confond jamais avec la justice. Comment en est-on donc venu, critique comme partisan, à attendre de l'opinion publique qu'elle fasse cette justice?
Ils font la une des journaux. Les sondages s'infiltrent partout dans notre vie, à tel point qu'on a parfois l'impression qu'ils ont déjà décidé du sort de l'élection. Plus de 300 enquêtes d'opinion ont été réalisées depuis janvier, du jamais vu dans une campagne électorale. On frôle l'overdose.
De l'opinion publique, on attend aujourd'hui qu'elle décide, on la jauge, on la scrute, on l'évalue. Puissance incontestable est-elle pour autant la seule et unique puissance? C'est le paradoxe de cette condamnation de l'opinion publique aujourd'hui, on la sacralise et dans le même temps, on en fait un organe politique indéniable, un dieu social et donc la voix de la justice. Et c'est ce qui me frappe aujourd'hui, cette élévation de l'opinion publique en même temps que la dévaluation des autres institutions comme celle donc de la justice. C'est le vrai problème. Si on attend du tribunal qu'il opère en dehors des cours, qu'est-ce que ça veut dire de la justice? Est-on convaincu qu'elle ne fait plus son travail? Voilà donc ce qui m'inquiète, non pas qu'on s'interroge sur la justesse de l'opinion publique, mais qu'on attende plus grand-chose de la justice en tant que telle.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Clara de Giovanni, en compagnie d'Isis Jourda, Manon de la Selle, Géraldine Mosna Savoie, Lou Quevauvillier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Sylvain Latuc est à la prise de son aujourd'hui, Hélène Losseur à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la diffusion du débat enregistré à la Sorbonne samedi dernier. On vous proposera une philosophie du conflit. Étaient présents sur scène ce jour-là Pierre Judet de la Combe, Hélène Leuillet, Alain Renaud et Frédéric Worms. On partait d'une question, a-t-on besoin du conflit? Le débat a été animé, peut-être enflammé, je vous laisse découvrir. En tout cas, le public était nombreux et on est ravis de vous proposer la diffusion de ce débat demain, donc à 10h. D'ici là, pour écouter cette émission sur les visages défigurés chez Victor Hugo ainsi que cette série dans son entier depuis lundi sur le visage, eh bien sachez que c'est possible et que c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien les télécharger, les podcaster, afin de les écouter où vous voulez, quand vous voulez. Je vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où l'équipe des Chemins attend vos remarques et vos commentaires. Mais pour l'heure, il est 11h sur France Culture. Restez à l'écoute.